Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Corinne Rondeau et Yasmine Youssi se font face à notre affiche Olafur Eliasson, Versailles. On Being an Angel, exposition des œuvres de Francesca Woodman à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Nous évoquerons aussi plus rapidement Scène de la vie impressionniste, est au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Et Ueda, c'est le titre du livre de Shoji Ueda aux éditions Choses Communes. Vers 21h20, Antoine Guillaume nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des DVD du film La Terre et l'Ombre de César Acevedo, distribué par Pyramide. Enfin, nous avons rendez-vous avec l'éditrice Dominique Bourgois, qui est toute cette semaine l'invitée de La Dispute. Quel est le point commun entre Jeff Koons, Xavier Veillant, Takushi Murakami, Bernard Venet, Johanna Vasconcelos, Giuseppe Pennone, Liu Fan, Anish Kapoor et Olafur Eliasson? Ils ont tous été invités depuis 2008 à exposer dans le château Les Jardins de Versailles. C'est donc cette année autour du Danois, ayant grandi en Islande et travaillant aujourd'hui à Berlin, où il est installé. Ne faites pas de signe comme ça, Yasmine Youssi, parce qu'il est Danois de nationalité, même si ses parents sont islandais.
Mais il a grandi en Danemark, il n'a pas grandi en Islande.
Ah si, il a grandi, alors là, Yasmine, bon. Reprenez vos fiches, toutes chiffonnées aujourd'hui, je voulais pas en parler à nos éditeurs pour pas qu'ils s'inquiètent. Vos fiches sont normalement cartonnées, aujourd'hui elles sont complètement gondolées, sans forme, elles ont pris des inondations, les crues de la Seine. Relisez mieux vos fiches. Bon, mais c'est pas parce que vous êtes allé à Berlin pour le rencontrer que vous savez.
Il m'a dit qu'il avait grandi au Danemark.
Oui, mais de quel âge, Yasmine?
Je vais venir
ma présentation après. Mais non.
Mais si.
Allez. On va pas recommencer l'émission parce que c'est pas comme ça que ça se passe.
Non.
Mais donc, il est installé à Berlin aujourd'hui, est-ce qu'on est d'accord? Son studio emploie bien à peu près 90 personnes. Vous les avez comptées?
Une par une.
Ah là là. Est-ce qu'on peut dire qu'il est connu pour des installations spectaculaires?
Je pense.
Comme à la Tate Moderne à Londres,
absolument,
dans les rues de New York. On est d'accord là-dessus?
Surtout.
Est-ce qu'il a été place du Panthéon pendant la COP21 avec une grande horloge constituée de 12 grands blocs de glaciers groenlandais?
Bah oui.
Est-ce que c'est vraiment groenlandais, vous êtes sûr?
Du Greenland.
Bon.
J'ai l'impression de passer un test.
Est-ce qu'on lui doit aussi une installation pérenne à la Fondation Louis Vuitton?
Absolument.
Est-ce qu'il a été exposé lui-même dans cette Fondation Louis Vuitton? Bon. Alors, comment allait-il investir à Versailles? Ça, je ne vous demande pas la réponse tout de suite, mais dans un instant.
Et je gagne quoi?
Alors vous ne gagnez rien, Yasmine, enfin, si ce n'est un cachet confortable pour venir étaler votre science et votre goût pour les biographies.
Ma science, j'oserais pas.
Votre goût pour les biographies. Bon, on lui demandera où est-ce qu'il a grandi, voilà. De quel âge à quel âge, au Danemark, en Islande, peu importe à
son
vrai dire.
Son père était en Islande et il y allait régulièrement, mais sa mère était installée au Danemark.
Mais les deux sont islandais.
Les deux sont islandais et il passait ses vacances en Islande.
Bon. Alors là, on parle du château de Versailles. Voilà. Est-ce que je vais commencer avec vous, Yasmine, ou est-ce que là, c'est trop vous demander que
vous
donner des premières impressions? Oh non.
Non.
Bon, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je suis toujours heureux quand vous êtes dans ce studio. Fiches gondolées. Bon, ça me contrarie un petit peu. Je prendrai une photo tout à l'heure hein, de ces fiches New Look. Vous allez arriver quand même à vous relire ?
Oui.
L'introduction, s'il vous plaît. Fiche numéro 1.
Écoutez, moi d'habitude, je suis une inconditionnelle de Lafour Eliasson.
D'accord, on a compris la suite de la phrase à peu
voilà,
près.
Voilà, et j'ai pas eu la chance de voir le Weather Project à la Tate de Londres.
Le projet du temps qu'il fait. Je traduis pour Corinne Rondeau.
Merci Arnaud.
J'en ai vu beaucoup d'autres. Je me souviens être allée l'année dernière, juste au lendemain des attentats de Charlie, enfin 2-3 jours après, à la Fondation Vuitton. Et franchement, c'était son installation qui m'avait aidée à remonter, à revenir un peu au monde, à m'apaiser. Ça avait eu un effet foudroyant sur moi. Ça m'avait vraiment beaucoup aidée. Et là, il y a eu rien de tout ça. Quand je suis allée à Versailles, c'est-à-dire que les pièces sont là, elles sont très belles, elles ont un côté hypnotique comme d'habitude, mais elles ne dialoguent pas ensemble. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, à quoi c'est dû ? C'est-à-dire que Lafour Eliasson, il a l'habitude de s'emparer d'un lieu. Et d'imaginer une installation dans son ensemble, c'est-à-dire de prendre le lieu dans son ensemble et d'imaginer quelque chose pour ce lieu-là en fonction de son histoire. Il faut voir comment il travaille quand on va dans leur studio justement à Berlin, où il a toute une équipe qui fait de la recherche. Et là, c'était passionnant quand je l'avais rencontré effectivement. Il m'avait dit qu'il travaillait sur ses équipes lui avaient fait des recherches pour et lui avaient rapporté des documents sur les droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, qu'il travaillait sur l'idée de rendre chaque spectateur, de faire de chaque spectateur un roi, il travaillait là-dessus, ce que je n'ai pas du tout retrouvé à Versailles. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas à mes yeux à Versailles ? Est-ce que c'est... Versailles, c'est quand même un domaine gigantesque. Alors est-ce que c'est la démesure du lieu qui finalement est difficile à appréhender et qu'on a l'impression que les pièces sont disséminées à droite, à gauche ?
Alors justement là-dessus, qu'est-ce qu'on peut voir comme pièce de Lafour Eliasson et dans quels endroits ? Parce
alors,
que c'est ceux qui n'ont encore vu aucune image,
bien sûr,
qui ne savent rien.
Il faut y aller, hein. Il faut voir, il faut voir pour s'en rendre compte. D'abord, vous tout de suite, la première pièce est la plus discrète. Et c'est celle, moi, qui m'a le plus touchée dans le salon d'Hercule. Celle qui m'a le plus vraiment accrochée dans le salon d'Hercule. Quand vous rentrez, je vous le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'a raté le jour de la visite. Moi-même, je l'ai raté, hein, j'ai dû revenir sur mes pas. Sur la fenêtre de droite, tout d'un coup, vous avez l'installation. En fait, c'est un gigantesque miroir devant la fenêtre. Ce qui fait que vous vous mettez à la fenêtre et vous avez votre double en face. Et vous regardez. Et là, c'est le seul moment où pour moi ça fonctionne, c'est-à-dire que tout d'un coup, moi, c'était comme une métaphore du pouvoir, enfin de ce qui se passait dans ce château de Versailles, c'est-à-dire un roi entouré de ses semblables, d'une cour composée de clones où tout le monde se ressemble et finalement on ne voit pas le reste du monde, on ne se voit que soi-même et on n'entend pas ce qui se passe. Et c'est ce qui se passera ensuite pour lui. Donc vous avez trois pièces à peu près qui sont dans le château, une dans la galerie des glaces, quatre.
Cinq, effectivement, Corinne Rondeau. Bon, on va l'avoir la description. Elle a le plan sous les yeux.
Elle a le plan sous les yeux. Alors, à l'intérieur, il y a celle-là. Il y a je crois que c'est la salle de l'œil de bœuf. Corrigez-moi, hein, Corinne, si je me trompe.
Oui,
vous avez deux miroirs.
Rien de dire d'autre que vous corrigez.
Vous avez deux miroirs en face à face, deux... yeux de bœuf, on dit, Corinne.
Alors, si c'est le gréviste qui fait sortir, deux yeux de bœuf ou deux œils de bœuf?
Deux œils de bœuf.
Deux œils de bœuf. Qui se font face.
Voilà.
Mais
est-ce que c'est pas une seule et même installation? Parce que c'est un miroir, un qui est plongé dans la pénombre et un autre qui est vraiment entouré d'une lumière très très chaude, très solaire. Et pourtant, c'est le soleil noir qui vous éclaire et l'autre qui est très très, avec une lumière très très jaune, très très de feu, qui a vos couleurs. Ça aussi, c'est très impressionnant. Et puis, vous avez au bout de la galerie des glaces « Your sense is unity » ou « Your sense of unity » avec des cercles, un cercle de néon et un cercle noir, un jeu de miroir où là, vous vous reproduisez aussi à l'infini dans les miroirs.
Déclinaison sur le miroir,
voilà,
la lumière,
exactement.
Le reflet.
Exactement. Vous avez... Alors ça, c'est celle que moi j'ai vue et Ensuite, vous avez dans le Grand Canal, vous avez une cascade. Et puis, vous avez au bosquet des étoiles, non ?
Oui, c'est ça. Au bosquet de l'étoile.
De l'étoile, pardon. Au bosquet de l'étoile, vous avez...
Ah, ces nouvelles fiches, ça ne va pas du tout, Yasmina.
Elle ne les regarde pas.
Elle ne les regarde pas, oui. Au bosquet
vous
de l'étoile.
Vous avez un anneau de brume, surtout si vous avez fait un brushing, n'y allez pas.
Oui, mais je crains rien, personnellement, côté brushing.
C'est vrai. Qui par temps clair, normalement vous devriez pouvoir avoir un arc-en-ciel. Enfin, le temps clair n'étant pas ce qui nous caractérise le plus en ce moment, c'est un peu difficile.
Bon, c'est jusqu'au 30 octobre.
Voilà. Alors, le souci, moi, que j'ai eu, c'est que ces pièces-là, j'avais l'impression que soit. Il y a aussi la salle, il y a une très très belle pièce de miroir aussi dans la salle des gardes du roi. Un miroir suspendu au plafond qui tourne un peu comme le soleil.
Tout ça m'a l'air très littéral pour l'instant.
Hein. C'est le problème que j'ai eu, moi, Arnaud, c'est que c'est très littéral. On est dans le roi soleil.
Pourquoi vous en parlez
très
bien ?
Il nous a habitués quand même à quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus fort. Et puis surtout, moi, ce qui m'a gêné, c'est que pour moi, c'est un peu d'érudite.
La cascade dont vous parlez, c'est effectivement
celle
qui était à New York.
Alors, bien sûr,
c'était très impressionnant, très spectaculaire.
C'est
un échafaudage avec de très 40 mètres.
Quand vous voyez votre reflet qui se démultiplie dans Your Senses Unity, c'est le grotto à Venise. Mm-hmm. La brume, je crois qu'il l'a déjà fait. Alors, bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas vu. Ça, c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est qu'on a.
C'est le côté
l'unité,
best-of, quoi.
Je la cherche. Mm. Voilà, c'est ça. Bon, il faut savoir qu'il n'a eu que 7 mois pour tout préparer, ce qui n'est pas
évident.
Enfin,
ils sont 90 avec lui, donc c'est peut-être
plus
pas.
Plus les équipes de Versailles qui sont formidables.
Plus les équipes de Versailles. Bon, la question du temps, je pense qu'on peut la mettre de côté. Corinne Rondeau.
Oui. Bah écoutez, oui, effectivement, c'est très littéral. Alors, moi, je trouve que pour un artiste qui travaille sur la perception, tout de même, on a envie de lui dire est-ce que la radicalité, ça vous ferait un petit peu plaisir ? D'autant que Versailles, tout de même, et il a dû s'en rendre compte, c'est quand même un des enjeux, je dirais, de l'apparence. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que Versailles ? C'est pas. Enfin, quand on est artiste, il faut se dire que. Et quand on joue sur la perception. Quand on joue dans un lieu où le baroque a ses jeux de miroir, où le Grand Canal est lui-même un miroir d'eau, à un moment donné, il faut savoir se mesurer aux apparences et travailler sur la perception au-delà même de petits enjeux et de pièces. Il me semble que c'est de l'occupation de l'espace.
Absolument.
Et dans cette occupation, je dirais que la perception ne fait pas, je dirais, fête, au sens des fêtes, je dirais, des jets d'eau, des miroirs, des apparences, et du merveilleux et de ce plaisir d'être trompé par les apparences. Elles sont là, elles sont parfaitement accessibles. Effectivement, le miroir dont vous parliez, Yasmine, dans la première salle d'Hercule, ce curieux muséum, ce curieux musée, s'appelle La Pièce, c'est effectivement derrière le premier plan de fenêtre un miroir qu'on peut voir apparaître, évidemment, dans son propre reflet, en se disant, mais tiens, c'est curieux. Mais en même temps, on a aussi des habitudes de se voir dans les fenêtres. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le jardin. Et ce qui est intéressant, c'est que là où vous vous tournez, dos au jardin, vous voyez le jardin. Donc en fait, il a un rapport quand même d'intériorité et extériorité sur cette première pièce qui n'est pas inintéressante, d'autant que je me rappelle moi d'une pièce qui m'avait beaucoup plu il y a très longtemps au Muséum moderne dans la ville de Paris.
Ah oui,
où
même,
il avait fait en fait une sorte de sténopée avec des jeux de miroirs où on avait la Tour Eiffel dans une salle. Et là, on se dit le baroque, c'est aussi des jeux de miroirs qui vous font rentrer la lumière et d'autres espaces à l'intérieur d'espaces clos. Et donc faire jouer les apparences à l'intérieur d'un lieu qui lui-même joue des galeries des glaces jusqu'au Grand Canal, je dirais que d'une certaine manière, il était chez lui. Le problème, c'est que quand vous n'êtes que dans l'apparence et le jeu de la perception qui consiste à dire il faut que vous sentiez, il faut sentir, parce qu'il a dit ça aussi aux journalistes en disant, voilà, il ne faut pas compter, il faut sentir, vous êtes des croisés, vous devez défendre ça. D'abord, on fait notre boulot, déjà, donc qui part à sa place, mais pas à la nôtre. Donc là, il m'a un petit peu irritée. Et je dois dire qu'il y a quelque chose d'un enjeu du miroir, mais qui est complètement raté. Raté, puisqu'en fait, vous avez une déclinaison à l'intérieur sur le miroir, comme l'a dit Yasmine, avec la compression solaire qui est très ratée au niveau de la production. C'est un truc suspendu, un fil électrique qui arrive en haut, qu'on voit, avec quand ça tourne, vous voyez les néons, ça va pas. Effectivement, la salle de l'œil de bœuf, du salon de l'œil de bœuf, est très très réussie. à condition de se mettre vraiment dans l'axe, parce que si vous en sortez, vous voyez à l'intérieur du cube de lumière l'angle de fabrication de l'espace intérieur, donc là c'est raté, ça vous casse complètement la dimension flottante de cette éclipse dans laquelle vous êtes, donc ça fait des croissants. Et là, pour le coup, je retrouvais Versailles, Apollon, Diane, voilà, le dieu de la lumière, le dieu du soleil, le soleil et la lune, finalement, quelque chose qui se jouait, finalement j'étais à l'entre-deux. Et comme la pièce vous met à l'intérieur, et que pour le coup, cette pièce, au niveau architectural, vous avez deux œils de bœuf, hein, vous êtes pris dans une latéralité, et si vous êtes à l'axe, vous êtes dans ce rapport de pièces obscures où il y a le miroir qui reflète effectivement la lune, enfin le soleil dans la nuit, et donc vous êtes au milieu de ce jour et nuit, et ça c'est intéressant parce que ça renvoie à ce rapport d'intérieur et d'extérieur, de cette image qu'on a du Grand Canal dans le miroir. Et effectivement, ensuite, quand vous passez, vous allez dehors, alors il y a une petite installation avec deux yeux sur une vitre avant de rentrer dans le jardin. Il faut avoir la taille, moi je ne peux pas. Et à l'intérieur de quoi ? Ces deux yeux, en fait, vous voyez votre visage. Donc c'est une manière de renvoyer à votre perception. Que voyez-vous ? Ce que vous voyez, n'êtes-vous pas aveugle sur ce que vous voyez ? Je cherche à vous faire voir. Donc au bout d'un moment, la pédagogie, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Enfin, moi, personnellement. C'est-à-dire que j'ai envie de rêver avec ma propre perception. Parce que la question du cercle est redondante. Ouais. Et s'il nous place au point du centre, c'est-à-dire au centre de notre propre vue, qui consisterait à justement se poser la question « Que voyons-nous ? Qu'est-ce qui est réfléchi ? Où se trouvent les opacités ?» Moi, je suis preneuse. Mais si ça ne me fait pas décoller, c'est-à-dire si je reste à la leçon de la perception, je suis le centre de la perception, écoutez, j'ai déjà lu Merleau-Ponty, vous voyez. Et en même temps, je me régale moins en regardant Eliasson. Là qu'en lisant Merleau-Ponty, ce qui est dommage quand même, vous voyez, parce qu'on a envie de prendre du plaisir à les choses. Et ensuite, dans le jardin, vous avez une déclinaison sur l'eau. L'eau glacée, avec une terre qui est en fait de la moraine, qui est en fait une poudre de glacier qui est mise dans le bassin du bosquet de la Colonnade. Donc c'est gris. Ensuite, vous avez la cascade. Et puis ensuite, vous avez, comme l'a dit Yasmine, ce nuage. Donc, il y a l'eau moléculaire, il y a la cascade, il y a la fluidité. Et en même temps, il y a le côté cristallin de la glace. Il y a une métaphore. Le problème, c'est que ça tient pas. Non. Les passages ne tiennent pas. Tout tient intellectuellement. Voilà, déclinaison, variation, parce que les jeux d'eau, les jeux de miroir.
Mais ça ne produit pas grand-chose.
Et ça ne fait rien.
Ça ne fait rien.
Ça ne fait rien. Et moi, je suis vraiment au regret de me dire, il a à la fois des discours sur ne faites pas de selfies, je fais tout pour détruire la possibilité de faire des selfies. J'ai envie de lui dire, écoutez, Yasson, la photo nous a fait perdre la mémoire, parce que quand on fait une photo, on se rappelle pas de la même manière ce qu'on voit. Le selfie, c'est pas la perte de la mémoire, c'est la perte du sujet à l'intérieur même de l'image et de l'espace. Et là, on a envie de lui dire, mais ça tient même pas. L'idée d'avoir une idée de nous dire il ne faut pas photographier, bon après tout on ne peut pas aller contre des habitudes qui sont celles du selfie aujourd'hui, mais il y a une manière d'une platitude extrême, et j'ai envie de lui dire, parce qu'il est à Versailles, la leçon que Versailles aurait dû lui donner, c'est que tout visible dans un miroir devient une image. Alors maintenant il faut commencer à travailler, qu'est-ce qu'on fait avec des images? Voilà, ben, s'il nous fait des images... Parce qu'il nous fait des images, Ediafour Yasson. Parce que ces pièces sont super en repro. Mais quand on y est, on a envie de pleurer quand même.
Là, Yasmine Youssi.
Là, parce que c'est la première fois que je ressens ça. Je souscris absolument à 100% à tout ce que dit Corinne. Moi, à chaque fois que je me suis retrouvée face à une pièce d'Olafour Eliasson, j'ai été à chaque fois subjuguée, renvoyée à des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. La perception, là, tout d'un coup, prenait tout son sens. Quand Corinne parle d'occupation de l'espace, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est littéral et c'est de la redite. Alors, ça n'empêche pas, effectivement...
Si on l'a jamais vu,
Non, le miroir de la...
Il y en a qui marche mieux, oui.
Non,
la compression solaire, là,
c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude avec Olafour Eliasson, dont chaque œuvre est vraiment... Il n'y a pas un millimètre qui est laissé au hasard, qui ne tient pas.
Oui, là, en termes de production, c'est toujours impeccable.
On est vraiment très étonnés. Alors... Il n'y aura pas de polémique cette année, c'est sûr, hein, comparé à ce qu'on a eu l'année dernière.
La cascade méfiance.
Ah bon ? Pourquoi ?
Parce que ça va casser la perspective
et
du Grand Canal.
Si ça a déjà commencé au niveau de l'eau, qu'il faut aller pomper, que ça va coûter cher, que ce n'est pas écolo.
Ouais, bon.
Bref. ça ne fonctionne pas.
Bon.
Ça ne fonctionne pas et c'est trop littéral et c'est de la redite. Et alors, bien sûr, à chaque fois, les gens nous entendent dire c'est de la redite, ils n'ont pas tout vu, mais c'est vrai qu'on avait quand même l'exemple de la Fondation Vuitton à Paris en janvier 2015 qui avait donné une toute autre approche de son œuvre. Quoi.
Tout petit mot, parce qu'on garde la place pour Francesca Woodman.
Oui,
hein,
oui. Versailles était le reflet d'une époque. On aurait voulu qu'Eliasson nous donne le reflet de notre époque en jouant sur justement des ambitions perceptives.
Lui qui a un tel discours sur l'époque d'aujourd'hui.
Et là, ça aurait été une fête. Ouais. Voilà. Versaillaise, mais autrement que les fêtes de Versailles.
Bon, alors je suis un peu triste, hein, moi qui aime beaucoup, si vous voulez faire Eliasson, j'irai voir, hein, comme j'espère nombre quand même de nos auditeurs et auditrices. C'est jusqu'au 30 octobre qu'on peut découvrir cette proposition de la Fur Eliasson Versailles.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Francesca Woodman. On va retrouver avant cela l'invité de La Dispute, l'éditrice Dominique Bourgois. On évoquera aussi le livre Ueda, de Shoji Ueda. On parlera aussi de l'exposition Scène de la vie impressionniste au Musée des Beaux-Arts de Rouen pour l'heure Scène de la vie culturelle avec Antoine Guillot et la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Comme on dirait à Versailles, l'espace public est forcément politique. C'est Daniel Buren qui l'a déclaré samedi dans le Figaro à propos des polémiques et pétitions pour ou contre qui accompagnent généralement ses interventions dans les villes. Il n'est bien sûr pas le seul artiste français choisi par des politiques à faire l'objet de contestations. Rarement, nomination au pavillon français de la Biennale de Venise aura suscité de telles controverses, constate ainsi Emmanuel Lequeux dans Le Monde. À l'annonce le 1er mai du nom de Xavier Veillant pour représenter la France en 2017, la hargne et la colère l'ont emporté sur les réseaux sociaux. La critique d'art Elisabeth Lebovici a ressorti une vieille interview dans laquelle Veillant livrait des propos joliment machistes sur les artistes femmes. Les féministes ont le regret de vous annoncer, moquait-elle. Phallocrate Xavier Veillant, ce n'est pas le problème pour Catherine Millet, la directrice de la rédaction du mensuel Art Presse qui a envoyé la seconde salve, lui aussi, très partagé sur Facebook et Twitter, son édito du numéro de juin attaque violemment ce choix. Pascal Convert, malheureux finaliste face à Veillant, avait manifestement son suffrage. Il faut dire que deux conceptions de l'art s'affrontent ici. L'une festive, représentée par Veillant avec son projet de scène de concert participative, sur laquelle s'annoncent déjà Pharrell Williams et autres stars. L'autre engagée dans le tourbillon du monde, représentée par le projet très fort de Convert envisageant de ressusciter le souvenir des Bouddhas de Bamiyan, détruits en 2001 par les talibans. 7 voix contre 7, ministre des Affaires étrangères et donc tutelle de l'Institut français qui met en œuvre le pavillon, Jean-Marc Ayrault lui-même aurait tranché. Dans le contexte actuel, le choix a été porté sur la proposition la plus joyeuse et pleine de vie, susurre-t-on au ministère de la Culture. Au-delà du débat esthétique, c'est le processus de sélection même qui est critiqué. Depuis l'édition 2015, pour laquelle a été élue Céleste Boursier-Mougenot, l'Institut français lance un appel à projet aux plasticiens de sortir du bois, fort de leurs ambitions bien calibrées, d'un commissaire d'exposition, mais aussi de leur puissance financière. Aux fameuses catégories du jugement esthétique de Kant, ajoutons désormais le pognon, tacle Catherine Millet. Nombre de voix s'élèvent contre ce processus jugé indécent. Bertrand Lavier s'est amusé cette année à le torpiller en acceptant qu'une dizaine de commissaires de haut vol, dont Éric Troncy, Nicolas Bourriaud ou Éric Mangion, envoient chacun un dossier défendant sa candidature. Un coup de force, Lavier, qui mériterait amplement son pavillon, comme l'ont eu ses pères Annette Messager, Sophie Kahl ou Christian Boltanski, en rit encore. Jamais je n'accepterai de rendre un tel dossier, c'est indigne de demander cela à un artiste. Il s'agissait surtout, explique-t-il, de montrer le ridicule d'une telle sélection. Paris plutôt réussi. L'Institut reviendra-t-il pour pour la Biennale 2019 à une sélection à l'ancienne avec quelques jurys débattant dans le secret du talent de leur poulain, guère plus transparent. Tout dépendra de l'habileté de Veillant à faire chavirer en musique ses ennemis et de l'habileté le gaillard en a. Tout comme Daniel Ordé, très habile lui aussi, et Daniel Ordé dont certains se demandent encore comment il a réussi à occuper un espace public très convoité en plein cœur de Paris. Vu du Pont Neuf, on ne peut les manquer, raconte un jour où il pleuvait Clémentine Mercier dans Libération. Même derrière un rideau de pluie, de grandes figures effrayantes se profilent sur le Pont des Arts. De près, on se heurte à une rangée de nus en bronze, façon Günther von Hagens, greffés d'oreilles de Mickey et de structures en inox polymiroir, genre palmier mouillé. Sursaut face à un zombie qui tente de jeter une forme humaine, orange Casimir à la Seine, le futur noyé est en peluche, déjà gorgé d'eau sous la pluie. Mais quelle est cette vision d'apocalypse et comment est-elle arrivée là, en plein cœur de la capitale? De tout petits cartels indiquent qu'il s'agit du travail de Daniel Ordé, répondant au titre « La passerelle enchantée ». En matière d'enchantement, ce matin pluvieux, on cherche les réseaux sociaux qui ont signalé la chose. Raille au passage la maire de Paris, Anne Hidalgo, et sa sortie au sujet de Nuit debout comme privatisation de l'espace public. Déjà, quelques curieux viennent prendre des notes et faire des photos, malgré les trombes d'eau. Pour expliquer cette cohorte installée le 25 mai, il faut lire le communiqué de presse de la galerie Agnès Monplaisir. Le texte est, comment dire, obscur. L'artiste est un démiurge de pacotilles. Il l'interroge. Il n'a pas, Dieu soit loué, la vocation de répondre. Ses sculptures exorcisent pêle-mêle ses interrogations et ses amalgames. Des mains, toujours redessinées. Les mains sont les prothèses de l'âme. Joint par Libération, Daniel Ordé explique: c'est un projet lourd que j'ai mené à bien moi-même, soutenu d'abord par la mairie du 6e arrondissement et finalement accepté par la mairie de Paris. Nous avons surmonté les problèmes techniques et respecté les charges du pont. Je ne le loue absolument pas, il n'y a aucune redevance, aucun paiement de ma part ni de personne, et la mairie ne finance pas non plus l'exposition. Hélas, la production est à ma charge. Ah, y a-t-il eu un comité de sélection avant la mise en œuvre, s'interroge Libération. Bruno Julliard, premier adjoint d'Hidalgo, explique: je n'ai pas donné personnellement cet accord, mais je vous confirme qu'ils doivent passer par la mairie pour avoir des autorisations pour la validation d'occupation du domaine public. C'est un service du département communication qui étudie les pièces administratives et la capacité du projet à respecter la sécurité. Selon Paris, les documents à fournir sont lourds. L'aspect technique l'emporte. Il existe un comité artistique, mais seulement pour les installations pérennes. Pour cette expo, les demandes remontent à l'année 2015. On parle plutôt de non-refus face à l'insistance. La thématique divine se déploie donc jusqu'au 12 juin. Pas sûr que tout le monde y voit la dérision que cherche Daniel Ordé, encore un grand artiste incompris.
Vous avez, vous avez des images parce que vous faites tourner
c'est
ça.
C'est lui qu'il faut envoyer à Versailles, à Venise.
Malheureusement, avec la crue, le pont des Arts était fermé.
Ah mince alors. Bon, bah, il faut qu'on aille regarder ça. Non, on va nous expliquer que c'est un fonctionnaire de la ville de Paris qui a mis le tampon, c'est ça, pour que ce soit autorisé. Non, mais c'est comme. J'ai cru que c'était un poisson d'avril, mais c'est pas à l'époque.
Non, non, c'est pour la vraie vie de vrai. Hein.
Non, mais c'est absolument
invraisemblable. Non, mais je vous dis, c'est lui qu'il faut envoyer à Venise, la partie comme on est.
Ah, alors il y a une toute petite image. Je ne suis pas sûr de comprendre cette image. Je passe à Corinne Rondeau aussitôt, mais bon, c'est vraiment un fragment.
Mais je ne les ai pas vus. Non, c'est vrai, il y a un truc clinquant et j'ai tourné la tête.
Ça vous
non,
a fait mal aux yeux.
Je vous assure, oui.
Bon, d'accord, bon, on va aller voir ça. C'est très, très étrange quand même, cette histoire. C'est quand même pas n'importe quoi comme lieu. Dans Paris, pour ce qui concerne la Biennale de Venise, alors Bertrand Lavier, il a accepté que des camarades de jeu se livrent à cet exercice. Ça, c'est pas lui qui a l'instigation, pour en avoir parlé avec lui, de cette multi-candidature, hein, avec différents commissaires pour dénoncer effectivement cette forme de choix, parce qu'il faut que les artistes fassent des projets, ce qui est quand même une drôle de chose. Oui. C'est la reconnaissance, normalement.
J'ai l'impression que le fait que les artistes aient de l'argent aussi est encore presque plus d'importance.
Oui, on va dire que en l'occurrence, c'est la galerie Perrotin qui rafle la mise, entre Xavier Veillant et Pharrell Williams, qui est aussi un artiste de la galerie.
Et Xavier Veillant est soutenu par de très grands collectionneurs, ce qui n'est pas le cas, enfin, de collectionneurs très riches. on va dire ça. Oui. Pascal Convert aussi est soutenu par des collectionneurs. C'est d'ailleurs par des collectionneurs et des mécènes. C'est d'ailleurs grâce à eux qu'il est allé à Bamiyan, en Afghanistan. Mais c'est pas la même puissance qu'il y a derrière.
Oui. Enfin après, c'est pas la question du talent ni de l'un ni de l'autre qui est discuté
ici. C'est pas
du
tout ça. Moi, ce qui me choque le plus, c'est finalement, je sais plus quelle est votre phrase exacte. Antoine, du ministère, quoi, qui justement avec ce qui se passe, comment c'est ?
Il faut que ce soit plus festif. On a changé la forme la plus festive.
Je vous recite ce qui se susurre au ministère de la Culture. Dans le contexte actuel, le choix était porté sur la proposition la plus joyeuse et pleine de vie.
Dans le contexte actuel, si l'art c'est ça, c'est de la décoration,
c'est pour distraire.
C'est pour distraire et nous amuser, détourner. Non, mais vous savez, dans les dictatures, ça sert à ça, là. Hein. C'est pas question de comparer l'incomparable, mais enfin, si on donne à l'art ce rôle-là, c'est-à-dire de distraire pour pas voir la réalité et se prendre la réalité en pleine gueule, alors c'est sûr que la réalité, chez Pascal Convert, on la prend de face.
En l'occurrence, c'est pas un communiqué officiel, c'est ce qui se susurre.
Non, mais c'est ce qui se dit, c'est ce qu'on entend partout.
Bon, ce serait pas étonnant.
Ce ne serait pas étonnant.
C'est affolant.
On verra.
Vive les street art.
On verra, je l'espère. Il faut taguer le pavillon français.
Non, mais c'est super, moi je suis pour le festif. À fond les ballons. Dansons la carmagnole.
Le nom des brioches.
Le street art peut avoir une portée politique. Il ne s'agit pas non plus de jeter tout le...
J'avais planté des patates et puis voilà.
Bon, mais vous ne voulez pas les planter sur le pont des Arts? Si vous insistez, on aura peut-être un champ de patates signé Corinne Rondeau sur le pont des Arts. Bon, si on parle d'expo qu'on a vu ensemble. Faut dire les choses comme elles sont. Nous avons fait un aller-retour à Rouen.
Oui, oui.
Un mercredi.
Ou je ne sais pas.
Sans pluie.
Pas loin de même.
On avait peur, quand même. Donc on est rentré sous le crash, quand même. Pour aller voir Scène de la vie impressionniste au Musée des Beaux-Arts de Rouen, une exposition qui va être visible tout l'été, même un peu plus, puisque c'est jusqu'au 26 septembre.
Oui, pas que celle-là, surtout.
Oui, parce que c'était une grande manifestation.
Énorme, un festival impressionniste. Toute la Normandie est
impressionniste.
Absolument. Et impressionnante, d'impressionniste.
Ouais.
Alors, c'est une exposition, non mais.
Ça sera la Biennale du Rire prochainement.
Bon, allez, on y va. Donc, c'est donc cette exposition. Vous ne verrez pas les impressionnistes sur le genre le plus connu qui est celui du paysage. Là, c'est une relecture, effectivement, de ce qui a été un peu négligé, à savoir l'idée du portrait. Et parce que ce portrait. A été, oui, effectivement, mis un peu de côté. Et là, c'est une relecture pour montrer encore le portrait est un phénomène culturel et social très important qui a permis, en fait, une organisation de peintres et d'artistes.
C'est une chaise qui grince. C'est vous qui êtes tombé sur la chaise qui grince. Pardon, Corinne.
Et donc, de groupe, le premier groupe, finalement, d'avant-garde, ça serait les impressionnistes, à partir duquel il n'y aurait pas simplement une sensibilité personnelle, mais sur surtout aussi l'instauration d'une valeur sociale et de l'échange. Et la question de l'échange est assez répétitive, finalement, dans l'exposition, et nécessairement répétitive, puisqu'il y a cet échange, les échanges épistolaires, il y a aussi la dimension de la lettre, qui est très, très, très présente, avec la salle des liseuses. Donc il y a ce rapport-là de relations interpersonnelles, interindividuelles entre les artistes. Donc on a des portraits, des galeries de portraits, on a...
Des portraits d'artistes par d'autres artistes.
Par d'autres artistes, c'est ça qui est important. Et puis c'est aussi ce rapport à peindre ce qu'il y a sous les yeux, ce qui est au plus proche, c'est le début un peu de l'intimité.
La famille. De votre ami Renoir.
Alors là, si vous n'aimez pas Renoir comme moi...
Évitez la moitié des salles, c'est ça?
À peu près.
Non,
parce
on exagère.
Non, mais il ne sait pas peindre les yeux, je veux dire. ses portraits sont toujours agrémentés d'un strabisme qui est absolument impossible. Et puis c'est rougeaude en permanence. Enfin bon, moi je n'aime pas. Mais là-dessus, c'est intéressant de voir ce rapport à l'intimité. Ça, c'est intéressant. Ces échanges épistolaires qui sont représentés dans l'expo aussi. Donc peindre ce qu'il y a sous les yeux, c'est la famille, c'est évidemment donc la femme, l'enfant. Il y a quand même de Monet, il y a sa femme qui est sur son lit de mort, Camille, qui est très liée en fait au nymphéa qu'il peindra plus tard. Et c'est vraiment un brouillard de gris et de blanc qui est très très beau. Et ce tableau a une espèce de brouillard comme ça, qui est très fort. C'est parce qu'il a quelque chose à la fois d'une... d'une surface de la sensibilité, puis une profondeur de la mémoire qui se joue, qui est très impressionnante. Il y a les enfants, évidemment, il y a aussi les muses, et puis il y a les femmes, les liseuses. Et tout ce rapport épistolaire est assez heureux, je trouve, parce que c'est justement la manière de... Flaubert se posait la question, est-ce que c'est un genre de style particulier, quoi, qui est interrogé, est-ce que c'est un style féminin en particulier, ce style de l'épistolaire. Donc il y a une découverte, on peut dire, de cette relation, je dirais, de groupe interindividuel, de l'affinité, des correspondances, des singularités. Donc c'est, faut avoir un chemin un petit peu libre et de se poser pas trop de questions, mais de voir qu'effectivement ça fait groupe. Alors on a quand même découvert un peintre, Federico Zandomelli.
Ah oui.
Qui là, il y a deux tableaux, dont un de Diego Martelli, qui était un écrivain critique et mécène italien, et un autre tableau, Oli, une femme qui est allongée, la tête tournée. Il les peint d'une manière assez étonnante. Lui est assis dans un portrait, il tourne la tête, et donc il est de profil, il tourne la tête. Et elle est comme dans un sommeil, la tête tournée aussi, une très belle tapisserie derrière. Il y a une sorte d'intimité très forte, un caractère très photographique, j'ignorais complètement ce peintre. Il y a quand même aussi des prêts étrangers qui sont assez remarquables. Mais on n'oubliera pas non plus d'aller dans le même musée voir Fritz Tholo, qui est un Norvégien paysagiste, qui apparemment c'est assez beau, on n'a pas eu le temps de voir. Mais il y a Boudin au Havre avec l'atelier de la lumière, là je pense qu'il faut y courir. Yassander au Point du Jour quand même à Cherbourg.
Excellent Point du Jour. Hein.
Bon, c'est un peu trop loin. Puis il y a à Giverny, Sorolla et Caillebotte. Et puis vous avez de quoi passer à peu près 15 jours dans la région en faisant pas tout ce qu'il y a parce que il y a de la photo, il y a du théâtre, il y a des
énormément de choses. La Normandie est impressionniste.
Absolument.
Voilà. Et cette exposition dont on parlait plus précisément, scène de la vie impressionniste, est visible au Musée des Beaux-Arts de Rouen jusqu'au 26 septembre. Pas besoin de se déplacer, il faut juste trouver un livre. Ueda, de Shoji Ueda, aux éditions Choses Communes, Yasmine Youssi.
Oui, c'est un livre qui est plein de grâce, dont je voulais vous parler depuis un moment déjà, parce qu'il est sorti en 2015, et qui est consacré à un photographe japonais, donc Shoji Ueda, qui est né en 1913 et mort en 2000.
Il a grandi où,
sinon? Il n'a pas bougé de sa ville natale, qui est dans la région, une petite ville de la région de Tottori, que vous connaissez bien, au bord de la mer du Japon. Et c'est vrai que c'est un immense photographe, hein, vraiment un de ces très très grands photographes japonais. Mais de lui, on connaissait essentiellement ses photos en noir et blanc d'adultes et d'enfants sur les plages, sur le sable ou sur des dunes qui apparaissent un peu comme des traits, comme des notes. Et cet ouvrage qui a été nominé par le photographe Alex Sath de l'agence Magnum pour le Kassel Photo Book Festival, qui est quand même un grand festival de livres de photos, et c'est plus que mérité, parce que ce livre dévoile un travail qu'on connaît beaucoup moins de Shoji Ueda, et parce qu'il parvient à marier, mais à merveille, et le minimalisme japonais et le surréalisme. Alors ça se voit dans les paysages. Ici, on est obligé d'y regarder à plusieurs fois pour deviner le nombre de plans, comment ça s'articule. C'est vraiment, on est tout de suite pris. Il y a une étrangeté, mais en même temps, elle est très apaisante. C'est pas du tout quelque chose qui vous met mal à l'aise ou qui vous dérange. Une photo avec une vieille télévision portative sur un muret, comme ça, il y a un globe au sol, en extérieur, des photos de neige qui rappellent aussi celles de Mario Giacomelli. Qui faisait en Italie. Vous avez des marines somptueuses qui annoncent celle de Sugimoto, ou de Sugimoto, je ne sais jamais comment il faut dire. Et plus étonnante, ce sont ces photos en couleur. Il y a des natures mortes, très très vives, très japonaises là pour le coup, avec des fruits. Enfin, vraiment, vraiment, allez-y, parce que c'est découvrir toutes les facettes, finalement, grâce à ce livre, découvrir toutes les facettes du photographe.
Ce livre, Ueda, est édité aux éditions Choses Communes. Dans quelques minutes, nous parlerons de Francesca Woodman, exposée à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Avant cela, on retrouve Dominique Bourgois, l'éditrice invitée de La Dispute cette semaine, dont on peut retrouver l'actualité sur franceculture.fr à la page de l'invité de La Dispute.
Enchanté, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous...
Dominique Bourgois, ce soir, les arts plastiques au programme de la dispute. Ça dit, on pourrait commencer par là. Moi, je sais que j'ai toujours un très, très grand plaisir à regarder les livres des éditions Christian Bourgois, parce que ce sont de vrais beaux objets, que vous apportez un soin tout particulier aux couvertures. C'est peut-être un peu banal de dire ça, mais il n'empêche que ça fait partie du plaisir du lecteur, hein, que de savoir cet objet livre et que cet objet, on le trouve beau.
D'abord, je crois qu'au début, c'était un jeu pour Christian Bourgois. Il aimait bien faire ses couvertures et on a gardé ses caches, que personne ne comprend comment on garde des choses aussi archaïques, mais qui nous aident à faire nos couvertures. Il s'est beaucoup amusé et il nous a appris. J'espère qu'on continue dans le même sens. Et c'est vrai que c'est amusant de produire des livres qui sont beaux à regarder, mais enfin c'est quand même le contenu qui...
Oui, on est d'accord, mais j'entrais par là pour parler d'art plastique avec vous. Encore faut-il avoir une sensibilité aux images.
Mais je viens de lire une très jolie phrase de Chantal Thomas dans un petit recueil qui était fait pour le Village Gilet ou pour Lyon, où elle est allée voir une exposition à New York. Ce qu'elle dit, c'est que c'est tout à fait formidable de marcher dans Central Park en ayant regardé de la peinture. Je pense que ça résume exactement le plaisir qu'on a allé au musée. Enfin, moi, j'aime bien aller dans les musées que je connais, très vite, voir si les tableaux que j'aime sont toujours là. J'aime bien voir que...
Ah, vérifier,
on jette un coup d'œil, ah ça va, puis on va voir autre chose. Je trouve que on a tous des tics comme ça quand on retourne dans les musées. Moi, je l'ai fait très très souvent, de retourner, voir... Bon, je crois qu'on a beaucoup regardé de peinture, et puis on en regarde encore beaucoup. Voilà, quand j'étais enfant, mon père m'emmenait au musée, ou dans les galeries. Mais j'aime bien, par exemple, là, j'ai apporté la fameuse tasse de Zurbaran. Pourquoi ? Parce que je trouve toujours très intéressant de trouver les filiations. Et quand on regarde la tasse de Roy Lichtenstein, on se dit « Ah, mais oui, mais lui, il avait fait ça ». Et je trouve ça toujours... ça me plaît bien, quoi, de trouver des filiations... de voir d'où ça vient. Alors, c'est peut-être un cliché, mais on regarde Matisse, bon, l'atelier rouge, la fenêtre et tout, puis après on regarde Rothko, puis après on s'amuse comme ça. Et ça, je le fais très souvent. Voilà. Parce que je trouve qu'en fait, regarder de la peinture, ça m'aide à vivre. Elle a raison, Chantal Thomas. On marche mieux quand on a regardé de la peinture. Et par exemple, l'année dernière, on a tous vu... on est tous retournés voir l'exposition Bonnard. On avait l'impression de découvrir Bonnard. Soudain, on découvrait... Bon, d'abord, c'est vrai qu'il y avait des œuvres qu'on n'avait jamais vues, mais on découvrait une sensualité, une vie, une arrogance, une séduction. On a tous dit ça. Et quand on a vu l'exposition Sonia Delaunay, moi, je me suis dit, mais quelle époque, quelle chance, ils étaient tous ensemble, ils faisaient la peinture, des décors, des costumes, des vêtements, de la mode. C'est vrai que ça nous stimule, je veux dire, ces expositions-là. Quand même, l'exposition Bonnard, on pensait qu'on avait tout vu. Non. Si on retourne voir le musée Rodin refait, de nouveau on est ému parce que la muséographie a changé, mais ça fait rien. C'est une des présentations qui... Puis peut-être qu'on a des maturités qui nous aident à intégrer différemment les œuvres. J'ai découvert maintenant, je trouve que il faut pas être négligent, par exemple, sur la peinture française après la guerre. Des peintres comme, je sais pas, Gruber, Pignon, tout ça, Fautrier. C'est vrai, il faut les regarder de près parce que... C'était des écoles aussi. Voilà, je m'applique un peu à revisiter les propositions. J'ai une grande collection de cartes d'annonciation.
Ah.
Parce que les annonciations, c'est des sujets formidables. Vous avez la Vierge dans tous les états, assise debout, cachée, lisant, pleurant, écrivant. Et j'en ai plein et j'en reçois plein. Bon, il y a des très beaux livres. Daniel Arras a écrit dessus. Vraiment. Pourquoi ? C'est parce que voilà, ça dit beaucoup sur l'époque, sur l'intention. C'est vrai que les annonciations m'ont beaucoup intéressée. J'aurais aimé mieux connaître la sculpture, parce que je trouve que c'est tellement sensuel, et même la sculpture la plus abstraite, c'est quand même une chose très belle, et qui demande un peu d'exigence. Mais qu'on nous montre bien maintenant. Donc, là, j'ai vu, encore une fois, l'exposition Picasso, la sculpture de Picasso, je l'ai vue deux fois. On pense que voilà, il a tout essayé, il a tout trouvé, toutes les formes, toutes les techniques, toutes les matières. Et on croit qu'on savait tout. Enfin, moi, je savais pas tout, en tout cas. Donc, c'est très agréable d'être séduit indéfiniment, en fait.
C'est le propre des génies ?
Sans doute. Mais des génies qui sont quand même pas excluants. C'est des génies qui parlent. Est-ce que c'est le propre des génies ?
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va voir, même un tableau qu'on a vu
100 fois, on y trouve toujours quelque chose, parce que nous, on a vieilli aussi avec lui, lui.
Bien sûr, c'est pour ça que j'aime bien retourner dans les musées, voir les œuvres que j'aime. Mais voilà, il y a à Berlin, il y a un tableau que j'aime beaucoup d'un couple. C'est un tableau hollandais du 18e, où c'est vraiment noir et blanc. Ils sont tous les deux, ils sont très couverts. Elle a une collerette, il a une collerette, il a un chapeau. Ils sont tristes comme tout, mais ils s'appellent... Nous, on les a appelés les fiancés. On va voir toujours s'ils sont là, les deux. Ce couple qui ne respire pas l'amour fou du tout. Mais on pense que oui, mais ils n'osent pas le dire. Et il y avait aussi, par exemple, il y avait un tableau auquel je pense très souvent, qui est tout petit, de Vuillard, qui s'appelle La nuque de Missia. Vuillard était amoureux de Missia, il n'a jamais dû lui dire. Elle lui a acheté beaucoup de tableaux, il a fait des décors pour elle. Et quand on voit qu'il peint ce tout petit tableau d'une nuque blanche, c'est une déclaration d'amour magnifique, non? C'est presque un tableau érotique, mais tout petit.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques en nous rendant, une fois encore, à la Fondation Henri Cartier-Bresson dans le 14e arrondissement de Paris pour y découvrir l'exposition actuellement consacrée à Francesca Woodman avec pour titre « On Being an Angel ». Née en 1958, Francesca Woodman n'a cessé d'utiliser son propre corps dans ses images, même si le plus souvent c'est pour le faire disparaître de l'image. On va y revenir. Un parcours fulgurant que cette photographe américaine morte à 22 ans, que cette exposition, alors qui a été présentée à Stockholm, auparavant à Amsterdam, qui ira à Malmö ensuite. Cette exposition propose de faire mieux connaître à Paris jusqu'au 31 juillet cette Francesca Woodman, qui est une œuvre quantitativement importante et encore fort méconnue, peut-être sous nos latitudes, des études brillantes, une année à Rome, une installation à New York où elle se suicide donc le 19 janvier 1980. Voilà pour quelques rapides repères biographiques parce qu'on a envie de parler de cette photographe. Corinne Rondeau.
Ben oui, on a envie d'en parler parce que moi, je dois dire que c'est le type de photo vers laquelle je n'irai pas parce qu'il y a trop de corps. Mais pour le coup, il y a quelque chose qu'elle vide de ce corps-là. Et ça m'a fait penser, vous savez, il y a une phrase dans La femme d'à côté, Truffaut, il y a un épigraphe sur la tombe des amants, ni avec toi, ni sans toi. Et l'histoire du corps de Francesca Woodman, c'est ça, ni avec toi, ni sans toi, parce qu'elle a, dès son premier portrait, à 13 ans, je suis restée à peu près 10 minutes devant cette photo en me disant, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il est fait avec rien, il est tout. C'est-à-dire que déjà, on ne voit pas son visage, elle tourne la tête avec une tige de bois, elle va déclencher sans dur l'obturateur de son appareil, donc il y a un flou de cette tige, il y a une distance qui est indécise, et en même temps, elle vous dit, je suis là et je ne suis pas là. Et toute son œuvre va se décliner de ce qui est précisément exposé à la Fondation Cartier, parce que c'est des milliers de clichés chez Francesca Woodman. C'est aussi beaucoup de mannequins qui vont poser pour elle, de modèles qui vont poser pour elle. C'est quelqu'un qui a une vitalité rimbaldienne, c'est-à-dire la flamboyance de l'irrespect absolu, quelqu'un qui est furieusement là et sans provenance, donc ok, on y va. Et je dois dire que moi, ce portrait avec ce gros pull tressé de laine, ce rien, on dirait qu'on est dans une chapelle avec cette lumière qui diffuse dans sa chevelure, elle est déjà là et elle est déjà partie. Enfin, évidemment, l'idée d'être un ange est déjà, je dirais, ça nous prépare. Et puis quand on apprend qu'effectivement, il y a un suicide à l'âge de 22 ans, et que la lecture faite par Anna Tellgren, la commissaire de l'exposition, nous conduit par un certain nombre d'œuvres où la figure de l'ange est là, où la figure de l'envol, les bras, les voiles, des structures géométriques de V, par exemple, qu'elle fait elle-même, où elle est accrochée
à l'encadrement d'une porte.
Et là encore, elle tourne la tête. Et on ne voit pas son visage. Elle joue avec des masques. Et elle se met des écorces sous les bras.
Du papier peint.
Sous des cheminées. Elle va dans des maisons délabrées. Dans ces maisons délabrées, il y a le corps ou il n'y a pas le corps. Elle est comme ça dans une sorte de complication. Que faire de ce corps? Parce que je trouve qu'il y a, vous savez que dans les années 60, 70, comme Carol Schneemann, par exemple, il y a eu ce rapport, peindre son corps, se prendre en photo dans la performance. Et avec High Body, par exemple, il y avait ce rapport du corps comme une extension de la peinture à travers l'image, etc. Je veux pas ramener Woodman à cette famille. D'abord, elle est trop jeune. Même si elle a dû fréquenter, il est sûr qu'elle a eu un rapport à la photographie de Duane Milkall. Ça se voit avec les petites légendes ou les aphorismes qu'elle met sous le cliché. Mais par ailleurs, je veux pas la rentrer parce qu'on veut dire féministe, etc. Moi, je crois que elle m'a fait penser notamment à Elena Almeida dont on a parlé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec un corps? Évidemment, on a des rapports au corps sur certains individus, mais je dirais qu'après tout, peut-être que Beckett, il avait aussi un rapport au corps féminin comme Almeida. C'est-à-dire qu'il y a chez elle, et surtout chez Francesca Woodman, la recherche d'une grâce ou d'une absence. Voilà, elle est à cet entre-deux, et je veux dire, cette recherche de c'est pas de la disparition en soi. C'est à quel moment la complication du corps, qu'est-ce que je peux faire avec ce corps? Je crois que j'ai beaucoup d'affinité avec ce travail, parce qu'elle, vous savez, Rimbaud disait, je veux être un voyant. Et elle disait, je veux être un être. C'est-à-dire que quand elle est dans ses vidéos, notamment, où elle écrit sur une feuille de papier Francesca, et ensuite elle va le déchirer, ou qu'elle cache son visage, ou qu'elle se met derrière des lambeaux de tapisserie, de maisons délabrées, elle est en train de dire, mon corps ne doit pas y être identifié, ni à un nom, ni à un prénom, ni à une identité sexuelle, d'une certaine manière. Donc, c'est fait avec si peu de choses, je veux dire, avec de la poussière, avec des coins de lumière, avec, voilà, et de la nudité, mais une nudité qui n'est jamais obséquieuse, qui est toujours une mise en scène, et une mise en scène de masque, c'est-à-dire, elle est toujours dans un rapport de théâtre, et en même temps de comment, je veux dire, la vraie question qu'elle pose, c'est comment on sort de son corps. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la question du théâtre, du jeu de rôle, enfin, du vrai acteur, que je dirais. Et puis, la vraie question, je crois, de tout le monde. Moi, j'ai une obsession, c'est le corps. Enfin, c'est une complication, le corps. On ne peut pas faire sans lui. Il y a des moments où on aimerait être sans lui. Et donc, je trouve que ce rapport, vraiment, qui se joue là, elle en fait quelque chose. Et elle est dans ce rapport à sortir du corps. Évidemment, pour sortir du corps, il faut d'abord sortir sa maison, il faut aller ailleurs. Bon, ben, elle en fait dans, elle est dans la recherche et dans l'épreuve du délabrement, quoi. Voilà. Pardon.
Non, mais pour commencer.
Oui. Non, mais pour finir.
Et pour finir, non, pas finir, mais entendre Yasmine aussi sur Francesca Woodman.
Moi, ce qui m'a le plus marqué dans le travail de Francesca Woodman, c'est la justesse. Tout est juste. Tout est à sa place, il n'y a rien à bouger, le regard est juste, la place du corps dans l'espace, le rapport à l'espace, tout est juste. Cette exposition, j'ai presque envie de dire enfin, parce que Francesca Woodman, surtout, on en a tous entendu parler, a vu...
J'avoue que non, pour ma part, hein, mais enfin, je suis très heureux de cette découverte.
Ah, vous n'en aviez pas, moi j'en ai beaucoup entendu parler, dans le milieu de la photo, ouais, les gens, tout le monde en parle, on a vu une photo par-ci, une photo par-là, et puis finalement, la seule chose dont on parle, c'était de cette photographe géniale qui s'est suicidée, c'était de sa mort et de son suicide, quoi. Ouais. Et là, enfin, on a accès à tout son travail, à tel point que moi, je sais que j'ai une collègue qui était étonnée de la taille des photos, des petites photos, et qui s'attendait... vraiment, on n'avait aucune perception de ces photos, mais il y avait... Tout ce truc autour du fait qu'elle s'était suicidée à 20 ans... oui, c'était 22. Et là, on peut aller au-delà de ça. On peut vraiment aller au-delà de ça et s'imprégner de ce travail-là. Et comme je vous l'ai dit, oui, tout est à sa place. Tout est juste, c'est-à-dire la composition de ses photos, la place de son corps, son regard sur son propre corps. Il y a quelque chose d'inné chez elle, comme vous. Moi, j'ai été absolument scotchée par cet autoportrait qu'elle fait à 13 ans, avec ses cheveux qui masquent son visage. Ça a été... Le rapport au corps est omniprésent. C'est un corps magnifique et en même temps qu'elle fait disparaître tout le temps, dès
qu'elle peut derrière du papier peint. Alors c'est marrant, c'est aussi toute une époque, c'est-à-dire la fin des années 70 et le début des années 80 à New York aussi. Alors elle s'installe à New York en 80, mais il y a toute une génération d'artistes aussi, les Nan Goldin, les David Wojnarowicz, tout ça, qui sont installés et qui travaillent dans ce même type de lieu, c'est-à-dire des maisons délabrées. Bon, eux sont sur les pires, au sud de New York, et c'est aussi beaucoup avec cette idée du délabrement. Là, on la voit se faufiler derrière une cheminée. Plus étonnant encore, cette photo où elle est au cimetière et son corps se faufile, mais presque comme celui d'un chien, d'un coyote, enfin qui passe à travers une stèle. Une stèle, oui. Alors c'est vrai que la mort est omniprésente, qu'elle est tout le temps là, tout le temps. C'est-à-dire quand elle se photographie avec des animaux empaillés, qu'elle essaye elle aussi de rentrer dans la vitrine, tout le temps. Il y a la maturité de ce travail-là, quoi, et quand même époustouflant. Alors elle a son propre univers, mais on voit aussi qu'elle a vu les surréalistes, qu'elle a vu beaucoup de photographes. Il y a un moment, une jambe saucissonnée, parce que quand elle fait ses photos, elle est encore étudiante, je crois que c'est à Rhode Island ou quelque chose comme ça. On voit là, une jambe saucissonnée au scotch, on peut pas s'empêcher de penser à Belle-Mère. Il y a plusieurs photos, deux, trois photos qui m'ont fait penser à Lee Miller. La photo dans la baignoire, elle est dans sa baignoire et c'est sa chevelure blonde qui sort. Et ça, c'est Lee Miller a fait à peu près, il y a toute la série de photos de Lee Miller chez Hitler, mais Lee Miller a fait ce type de photo. Et puis il y a une photo où elle est avec sa chevelure, là encore, devant des coquillages, avec des coquillages, ça aussi Lee Miller l'a fait. Elle a vraiment beaucoup regardé, je pense, les surréalistes, mais à chaque fois on pense à Bacon aussi, avec la disparition comme ça du corps qui se dissout. Moi ça m'a vraiment, c'est un travail qui m'a saisie, qui m'a impressionnée, c'est sa justesse, sa maturité. Et enfin, vraiment pour ça, je remercie la Fondation Henri Cartier-Bresson, parce que Francesca Woodman, tout le monde en parlait et personne ne savait vraiment qui c'était, à part, on avait vu deux, trois photos, quoi.
Ouais, sauf Corinne Rondeau et moi.
On ignorait son existence. Non, quand je dis ça, c'est le monde de la photo, en France, en tout cas. Tout le monde en parlait, mais personne ne... Et là, enfin, on peut voir une œuvre dans sa totalité et dépasser le simple fait qu'elle se soit suicidée à 22 ans.
On peut découvrir son œuvre, on peut aussi se procurer le livre édité par les éditions Xavier Barral, qui est un magnifique ouvrage. Je peux renvoyer aussi nos éditeurs au très beau texte écrit par Corinne Rondeau pour la revue Offshore. Non, mais qui est très... c'est pas souvent que je vous cite dans vos écrits, Corinne, mais en l'occurrence, on peut le voir en ligne et aussi dans la revue, bien sûr. Non, mais il y a quand même... C'est une forme d'épiphanie quand même de rencontrer une artiste comme ça, très loin de nous. Voilà, elle est morte depuis 35 ans, cette jeune femme qui restera évidemment une jeune femme. Rimbaud, on y pense. Elena Almeida, moi j'avais effectivement beaucoup pensé à elle, alors qui est toujours de ce monde, Elena Almeida, qui continue à 80 et quelques années d'avoir une production qui interroge sans arrêt le corps. Et c'est d'ailleurs amusant aussi de voir que quelquefois Francesca Woodman a un modèle, un homme dont les qualités corporelles sont à découvrir dans cette exposition. Et il y a quand même aussi beaucoup de...
J'aime comment vous le dites.
Ah, mais c'est pour titiller un petit peu. Il y a une fois quand même aussi quelque chose de ludique en même temps. Oui. C'est vrai que la mort est omniprésente et en même temps il y a beaucoup de jeux. Ouais. C'est la liberté.
Ah, mais c'est parce que pour moi, elle est sur la bascule de la vie. Vitalité, mais.
C'est normal que la mort soit là.
Je pense que de toute façon c'est pas un problème qu'elle se suicidait à 22 ans. Elle a des milliers de clichés. Ouais. Cette fille a été une fulgurance. Je crois qu'elle était juste à l'endroit de la création, qui a un point de butée évident, qui s'appelle la mort, et que je crois que c'est beaucoup plus intéressant parce que ça nous donne quelque chose. Oui. Tant pis si on n'en fait pas grand-chose, et tant mieux si on en fait beaucoup, de cette vitalité, pas de ces photos pour refaire. Mais ce qui est important, c'est de voir à quel point, quand on est radical et affirmatif entre ce point de butée et cette vie, mais vous ne faites que faire. Et c'est ça qui manque aussi. Et on a un peu marre des rapports de discours comme Eliasson sur l'écologie ou des trucs comme ça. Et on a envie de dire, oui, ça existe encore, des gens qui font des trucs à leur corps. Et en plus, ils n'ont pas de discours pour nous faire... vibrer, mon Dieu, oserais-je un mot aussi féministe.
On Being an Angel, de l'exposition consacrée à Francesca Woodman, est visible à la Fondation Henri Cartier-Bresson jusqu'au 31 juillet, puis donc ce livre aux éditions Xavier Barral.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Un cadeau à gagner, mais d'abord un retour sur le jeu d'hier au soir, Antoine Guillot.
Vous avez gagné des invitations pour la soirée de remise des prix du Très Court Festival. Ce sera le vendredi 10 juin au Forum des Images à Paris. Je vous avais demandé quelle durée maximale doit faire un film pour pouvoir concourir à ce festival. Eh bien, la réponse est 3 minutes.
Ce soir, à gagner des DVD du film La Terre et l'Ombre de César Acevedo, distribué par Pyramide.
Les protagonistes du film vivent dans une maison entourée de plantations. Mais de quelles plantes ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Yasmine Yossi, Corinne Rondeau et Antoine Guillot. Merci à l'équipe de la dispute, Hugo Boursier, Sam Boutata, Daniel Finot, Antoine Guillot et Virginie Le Duo. Merci à Jason Taous qui a assuré la prise de son ce soir et à Daniel Finot qui signait la réalisation. Rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique avec Anna Segalevitch et Marie Audroux. Nous parlerons du disque de Nicolas Harnoncourt, son dernier enregistrement pour la Missa Solemnis de Beethoven. Nous parlerons celui des mélodies de Guy Sacre. On évoquera aussi le festival de Saint-Denis. On retrouvera Antoine Guillot pour une revue de presse, Dominique Bourgois pour ses choix et un nouveau cadeau à gagner. Tout ça, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture, 22h15, hors champ par Laure Adler. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.